temps pour l'anniversaire de campus.
L'enthousiasme du public saute aux yeux.
J'écoute pas trop Radio Campus Orient, mais c'est quand même la meilleure.
Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro d'Histoire à la Loupe. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de cinéma et de ceux qui le font, ou plutôt qui l'ont fait. Je vais vous parler d'un homme singulier, un rêveur, mais qui en le réalisant a montré que tout était possible. Cet homme, c'est Georges Méliès, le créateur du 7e art. Le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris, se tient une séance extraordinaire organisée par deux industriels lyonnais, Auguste et Louis Lumière. Ils y présentent le résultat de leur dernière invention, le cinématographe, qui consiste à enregistrer et projeter des images en mouvement. Une révolution. Quelques films sont diffusés sur un écran installé dans la salle du sous-sol. La surprise se lit sur les visages des invités, tantôt émerveillés, tantôt médusés. Le film, qui ne dure pourtant que 40 secondes et qui est demeuré le plus célèbre, est l'entrée du train en gare de La Ciotat, où le train semble sortir de l'écran, provoquant une vive émotion parmi l'assistance. Parmi les convives, se tient un homme de petite taille, de 34 ans, presque chauve à moustache et barbiche. Son nom, Georges Méliès. Stupéfait et enthousiaste, Méliès est un homme de spectacle. Il est prestidigitateur et est le propriétaire du théâtre Robert Houdin, qu'il a racheté avec sa part d'héritage en 1888, lorsque son père, industriel, spécialisé dans la chaussure de luxe, a vendu ses parts de société en se retirant des affaires, laissant à ses fils la gestion de l'entreprise familiale. Georges, le benjamin de la famille, décide de suivre son rêve, faire de la magie dans des spectacles. Le théâtre étant déficitaire, d'abord, devient rentable, grâce à l'ingéniosité de son nouveau propriétaire. Dessinateur dès son plus jeune âge, Méliès esquisse en croquis ses tours, ses féeries comme il les appelle, et qui attirent le tout Paris. Entreprenant et novateur, il perçoit le potentiel spectaculaire de cette nouvelle invention qui ne s'appelle pas encore le cinéma. Il propose aux frères Lumière d'acheter leur invention pour 50 000 francs, somme énorme pour l'époque car c'est le prix d'un théâtre entier. Ils refusent, considérant que leur invention n'a aucun avenir commercial. Le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris, se tient une séance extraordinaire organisée par deux industriels lyonnais, Auguste et Louis Lumière. Ils y présentent le résultat de leur dernière invention, le cinématographe, qui consiste à enregistrer et projeter des images en mouvement. Une révolution. Quelques films sont diffusés sur un écran installé dans la salle du sous-sol. La surprise se lit sur les visages des invités, tantôt émerveillés, tantôt médusés. Le film, qui ne dure pourtant que 40 secondes et qui est demeuré le plus célèbre, est l'entrée du train en gare de La Ciotat, où le train semble sortir de l'écran, provoquant une vive émotion parmi l'assistance. Parmi les convives se tient un homme de petite taille de 34 ans, presque chauve, à moustache et barbiche. Son nom, Georges Méliès. Stupéfait et enthousiaste, Méliès est un homme de spectacle. Il est prestidigitateur et est le propriétaire du théâtre Robert Houdin qu'il a racheté avec sa part d'héritage en 1888, lorsque son père, industriel, spécialisé dans la chaussure de luxe, a vendu ses parts de société en se retirant des affaires, laissant à ses fils la gestion de l'entreprise familiale. Georges, le benjamin de la famille, décide de suivre son rêve, faire de la magie dans des spectacles. Le théâtre étant déficitaire, d'abord, devient rentable grâce à l'ingéniosité de son nouveau propriétaire. Dessinateur dès son plus jeune âge, Méliès esquisse en croquis ses tours, ses féeries, comme il les appelle, et qui attirent le tout Paris. Entreprenant et novateur, il perçoit le potentiel spectaculaire de cette nouvelle invention qui ne s'appelle pas encore le cinéma. Il propose aux frères Lumière d'acheter leur invention pour 50 000 francs, somme énorme pour l'époque, car c'est le prix d'un théâtre entier. Ces derniers refusent, considérant que leur invention n'a aucun avenir commercial. Loin de se laisser démonter, il décide de construire son propre appareil, comparable au cinématographe des frères Lumière, baptisé kinétographe. Mais le brevet sera un échec. Qu'à cela ne tienne. Il fonde une société, la Star Film, et commence à concevoir des films. Pour réaliser ses métrages, Méliès fait construire une verrière dans sa grande propriété de Montreuil. Ah putain! Le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris, se tient une séance extraordinaire organisée par deux industriels lyonnais, Auguste et Louis Lumière. Ils y présentent le résultat de leur dernière invention, le cinématographe, qui consiste à enregistrer et projeter des images en mouvement. Une révolution. Quelques films sont diffusés sur un écran installé dans la salle du sous-sol. La surprise se lit sur les visages des invités, tantôt émerveillés, tantôt médusés. Le film, qui ne dure pourtant que 40 secondes et qui est demeuré le plus célèbre, est l'entrée du train en gare de la Ciotat, où le train semble sortir de l'écran, provoquant une vive émotion parmi l'assistance. Parmi les convives se tient un homme de petite taille de 34 ans, presque chauve, à moustache et barbiche. Son nom, Georges Méliès. Stupéfait et enthousiaste, Méliès est un homme de spectacle. Il est prestidigitateur et est le propriétaire du théâtre Robert Houdin, qu'il a racheté avec sa part d'héritage en 1888, lorsque son père, industriel, spécialisé dans la chaussure de luxe, a vendu ses parts de société en se retirant des affaires, laissant à ses fils la gestion de l'entreprise familiale. Georges, le benjamin de la famille, décide de suivre son rêve, faire de la magie dans des spectacles. Le théâtre étant déficitaire d'abord, devient rentable grâce à l'ingéniosité de son nouveau propriétaire. Dessinateur dès son plus jeune âge, Méliès esquisse en croquis ses tours, ses féeries comme il les appelle, et qui attirent le tout Paris. Entreprenant et novateur, il perçoit le potentiel spectaculaire de cette nouvelle invention qui ne s'appelle pas encore le cinéma. Il propose aux frères Lumière d'acheter leur invention pour 50 000 francs, somme énorme pour l'époque, car c'est le prix d'un théâtre entier. Ces derniers, considérant que leur invention n'a aucun avenir commercial, refusent. Loin de se laisser démonter, Méliès décide de construire son propre appareil comparable au cinématographe des frères Lumière, baptisé kinétographe. Mais le brevet sera un échec. Qu'à cela ne tienne. Il fonde une société, la Star Film, et commence à concevoir des films. Pour réaliser ses métrages, Méliès fait construire une verrière dans sa grande propriété de Montreuil-sous-Bois, en région parisienne. C'est le tout premier studio. Avec son associé, Léon Relos, il commence à réaliser les idées qu'il a dans la tête. L'ambition est déjà présente dans la dite société. Sa devise, le monde à portée de la main. Mais contrairement aux frères Lumière, qui enregistreront le monde tel qu'il est, comme des reporters, Méliès veut transformer la réalité en attraction, en divertissement, en féerie. Dans les documentaires des frères Lumière, les locomotives entrent en gare de la Ciotat ou d'ailleurs.
Chez Méliès, elles abandonnent les rails pour s'envoler vers les étoiles. Avec lui, le cinéma va devenir le septième art. Georges Méliès est un touche-à-tout, un artiste. Il est partout à toutes les phases de la création de ses films. Plus de 600 entre 1896 et 1913. Ceux-ci sont des courts et moyens métrages, au sens où nous l'entendons. Inclassables, poétiques, mystérieux, traitant des sujets les plus divers. Parmi eux, il y aura Escamotage d'une dame, Cendrillon, Jeanne d'Arc, L'omnibus des Toquets, Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants, L'homme-mouche, Voyage à travers l'impossible, Le dirigeable fantastique, et bien d'autres encore. Il est partout à la fois dans son studio de Montreuil qui fourmille telle une ruche. Il joue tous les rôles, metteur en scène, opérateur, scénariste, ensemblier, acteur, producteur, décorateur. Il sait tout faire, et c'est surtout un touche-à-tout qui expérimente beaucoup. Il est celui qui va découvrir les trucages, les fameux effets spéciaux du cinéma moderne. Fort de son expérience d'illusionniste pour le théâtre de magie, il l'emploie pour son nouvel art. Il va découvrir la surimpression, le flou, le ralenti, l'accéléré, le fondu enchaîné et surtout l'arrêt momentané de la caméra. Le fameux truc par substitution qu'il découvre par hasard, alors que la caméra s'étant bloquée place de l'opéra, est reparti, mais où les sujets filmés avaient changé de place et transformés par leur remplaçant instantanément. Les films de cette époque ne sont pas destinés aux salles de cinéma, qui n'existent pas, mais aux forains à qui les bobines sont vendues. Ces métrages sont diffusés muets, accompagnés d'un boniment écrit par Méliès, une trame à partir de laquelle un comédien improvise avec brio pendant la projection du film. Le Manoir du Diable, du réalisateur, est projeté par exemple à la Foire du Trône en 1897, avant de faire le tour de toutes les foires de France. Méliès filme ses acteurs, la plupart du temps des acrobates, des danseuses ou des chanteurs venus du music-hall, mais aussi des voisins ou des membres de sa famille. Cela devant des décors qu'il peint lui-même et une machinerie du spectacle qu'il a lui-même conçue. Lorsqu'il avait effectué son apprentissage dans les usines de confection de son père, il avait acquis une solide maîtrise en mécanique à force de manipuler les machines-outils. Il développe un atelier de coloriage manuel de ses films où 20 ouvrières coloristes travaillent en permanence, image par image. Ainsi, les 2000 images d'un court-métrage de 2 minutes, l'équivalent d'un clip aujourd'hui, représentent 200 heures de travail en moyenne. Méliès est infatigable, ne s'accorde que très peu de repos dans sa propriété et gagne même le surnom de « sorcier de Montreuil ». En 1902, le génial réalisateur est au sommet de sa gloire. Il sort le chef-d'œuvre qui demeurera longtemps la référence associée à son nom. Le Voyage dans la Lune, le premier film de science-fiction. Tiré des œuvres de Jules Verne, De la Terre à la Lune et d'H.G. Wells, Les premiers hommes dans la Lune, inspiré, il crée une œuvre originale dont l'image qui demeure dans nos mémoires est la Lune à visage humain. L'œil droit crevé par un obus, habité par des explorateurs lancés par un canon gigantesque. Le succès est énorme et même planétaire. En France, l'entrepreneur de cinéma qui est Charles Pathé copie les œuvres de Méliès sans les égaler en qualité. Pire, aux États-Unis, les films de Méliès sont piratés à un point que ce dernier envoie son frère Gaston à New York créer une succursale de la Starfilm pour réguler cette fuite. Le succès aidant, et dans un marché en pleine expansion, Méliès est une sommité incontournable, mais considéré comme un original, un artiste, alors que son art prend une dimension industrielle, ce qui va lui être fatal. En 1907, Georges Méliès doit construire un deuxième studio dans sa propriété, ce qui lui permettra de réaliser deux films en parallèle. Mais ça ne suffit pas. En 1910, se réunit en conférence les éditeurs de cinéma qui vont discuter de l'avenir de la profession. Cette auguste assemblée est présidée par Méliès en personne, et les règles du jeu qui y sont adoptées ne lui permettront plus de continuer son art. On fait désormais construire dans le monde des salles dédiées aux projections de films qui ne sont plus vendues mais louées, ce qui accroît les bénéfices. Tout un système économique se construit avec des moyens colossaux en matériel et en personnel que Méliès ne peut pas suivre. Certes, il a une compagnie, la Starfilm, mais elle a toujours fonctionné en autoproduction et de façon artisanale. Méliès est resté un artiste, plus qu'un entrepreneur. Son rival, Pathé, l'a compris et lui dame le pion. L'arrivée d'un autre concurrent, Gaumont, est encore plus lourd à supporter pour le magicien de Montreuil. Le génial créateur du cinéma, contrairement à ces derniers, ne s'est pas diversifié, excellant toujours dans un même genre, les féeries, mais dont le public se lasse de plus en plus. Les Américains, avec les nouveaux studios à Hollywood, produisent à échelle industrielle. C'est le chant du cygne pour Méliès. La Starfilm ferme définitivement en 1913, ne pouvant plus rivaliser. Méliès est ruiné. À la fin de la guerre, il est oublié. Exproprié de son théâtre suite à l'extension du boulevard Haussmann, il perd sa demeure et ses studios. Dans un accès de rage, poursuivi par ses créanciers, il brûlera les négatifs de ses films. Il est retrouvé en 1925 à la gare Montparnasse comme gérant d'une petite boutique de jouets et confiserie. Pourtant, il n'est pas fini. En 1931, il reçoit la croix de la Légion d'honneur par Louis Lumière en personne. Celui-là même qui pourtant lui avait refusé 36 ans plus tôt son cinématographe jugé non commercial. Ironie de l'histoire, dirons-nous. Pathé, rival acharné, reconnaissait lui-même le génie de Méliès et son incontournable rôle dans le développement du cinéma. Il lui avait d'ailleurs commandé des films, ces 6 derniers, et qui seront hélas des échecs. Les cinéphiles, dont Henri Langlois, le futur directeur de la Cinémathèque française, ont redécouvert le grand homme, qui a pu reconstituer de mémoire sur le papier ses films perdus. Ce qui permettra de lancer à travers le monde une recherche de ses films vendus et de reconstituer son œuvre jusqu'à nos jours. On lui consacre un gala à la salle Pleyel. Il vit retiré dans une maison de retraite pour artistes de la scène où les visites se succèdent. Les dernières années ne sont pas aussi noires qu'on pourrait le croire. Méliès, lui, pense toujours à la magie, cette magie qui est destinée à enchanter le monde, cette magie que le cinéma a fait sienne, grâce à lui. Il décède le 21 janvier 1938. Sur sa tombe, au Père Lachaise, on lit encore aujourd'hui Méliès, créateur du spectacle cinématographique, 1861-1938. Il reste ainsi dans les mémoires comme un pionnier qui révolutionna le spectacle. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire à la loupe. Au revoir.